Ça y est? Alors rappelez-vous ce que vous avez appris au cours de l'INIM. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'interrogez. Vous avez trois parachutes. La première qui est dans Devarim chapitre 6. Ensuite, la deuxième est dans Devarim chapitre 11. Vous suivez sur vos livres d'ailleurs, ça vous est indiqué là, dans la marge. Et la troisième, c'est dans Bemidbar chapitre 15. Peut-être pas, vous savez. Chapitre 15. Bon. Alors, ces trois parashiot du Kriyat Shema sont encadrées par des brachot. Aujourd'hui, on ne va pas étudier le sens des brachot. Je commencerai peut-être à y faire allusion. Mais on étudiera le texte par la suite. Qu'est-ce qui va pas? Alors, dans la prière du matin, vous avez une bracha avant le Kriyat Shema. Deux brachot avant le Kriyat Shema. Je vais vous en donner le titre. La première commence à la page 47 dans vos Sidurim Sfarad. Cherchez pour les autres. La première bracha s'appelle la bracha du Yotzer. Yotzer. Simplement, pour aujourd'hui, je vous signale ces repères de manière purement technique. La première bracha avant le Kriyat Shema le matin, ça s'appelle la bracha du Yotzer, ça vient des premiers mots de cette bracha. Et prenez le temps qu'il faut pour la semaine prochaine de vous familiariser un peu avec cette structure. La deuxième bracha s'appelle Ahava. Ça vous est indiqué à la page 50, Birkat Ahava, Abracha Ashnia, chez les Fania. Ahava, s'il vous plaît. Ah, j'ai mis. Bon. Et ensuite, vous avez les trois parachutes du Kriyat Shema. Et après, vous avez la bracha qui vient après le Kriyat Shema et qui s'appelle, donc, ça on l'a déjà appris. Ça va? Donc, alors je vous rappelle, c'est un rite qui fait un tout. On va étudier le texte de la prière du matin. Le Kriyat Shema est encadré de brachot. Il y a d'abord deux brachot avant, Yotzer et Ahava, les trois parashiot du Kriyat Shema, et ensuite une bracha après, qui s'appelle la bracha de la Geoula. Ça va jusque-là? Alors c'est l'ensemble de ces 3 et 2, 5 et 1, 6, de ces 6 chapitres, si vous voulez, qui forment le rite qu'on appelle le Kriyat Shema. Quel est le sens du mot Kriya. Ça peut vouloir dire la racine d'abord. Likro. Kao. Alors cette racine a au minimum deux sens. Premièrement, c'est appeler. Et vous trouverez en relation avec ce sens de appeler, le sens de invoquer. Likro, appeler, invoquer. Et ensuite, le deuxième sens, c'est lire. Lire dans le sens de étudier. Lire d'abord, mais surtout dans l'hébreu traditionnel, dans le sens de étudier. Dans les langues juives, que ce soit le yiddish ou le judéo-arabe, pour dire étudier, on dit lire. Ça va jusque-là? Donc, alors voilà le sens du terme. On va particulariser le sens de ce mot de kriya, lecture, par rapport au rite, dans le sens d'abord un peu technique de invocation, c'est l'invocation de l'affirmation de l'unité de Dieu, la première formule qui définit ce rite. Et nous allons étudier uniquement les structures les plus essentielles, sinon on pourrait rester toute l'année rien que sur ce texte, et c'est à vous de faire correspondre et de remplir par les familiarité de lecture, même les traductions, ce que vous apprenez d'autre part, ce qui est nécessaire de rassembler autour de ce rite. Et alors, simplement je vous signale que on peut lire et étudier ce texte du Kriyat Shema dans la Torah. C'est un premier comportement, qui est un comportement qui correspond à une mitzvah de l'étude de la Torah. Okay. D'autre part, au moment de la tefila, au moment de l'office, à arbitre et à Shachrit en ce qui nous concerne, la lecture, la proclamation de ce texte est un rite pour lui-même, est une mitzvah pour elle-même, qui correspond à un commandement bien particulier. Je me souviens que dans des cours précédents, j'y ai fait allusion parfois, on va rassembler tout cela, et en particulier, vous me rappellerez quand nous avons parlé de cela, lorsque j'ai posé la question de le rite et le moment du rite. Qu'avant, le moment du rite, c'est pas le temps du rite, et après le moment du rite, c'est pas le temps du rite. Vous vous rappelez ? Et je vous avais donné l'exemple du Kretschema du soir. Pourquoi ça se situe très précisément à l'apparition des premières étoiles. Vous vous rappelez cela ? Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, il y a un moment dans le temps de la journée où la lecture de ce texte est une mitzvah pour elle-même, qui est le rite du Kriyat Shema. Alors que de façon générale, la mitzvah qui consiste à lire, c'est-à-dire à étudier un texte de la Torah, ça c'est une mitzvah beaucoup plus générale, c'est la mitzvah de Talmud Torah. C'est bien clair jusque-là ? Top. Bien. Alors, je reviens à cette première formule. Le sens fondamental, c'est l'invocation, la proclamation de l'unité de Dieu. Et on va donc, pour cela, s'appuyer déjà sur le sens du premier verset de cette paracha dans Devarim, chapitre 6, qui commence au verset 4, et qui est « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». C'est clair ? Bon. Alors, une petite introduction brève sur la signification de l'affirmation de l'unité de Dieu. Vous allez apprendre deux mots en hébreu que vous connaissez déjà, mais il faut en distinguer le sens, la différence de sens. En français, vous avez deux substantifs, unité et unicité. La unité correspond à l'adjectif 1. Et à l'unicité correspond à l'adjectif unique. Alors, expliquez-moi la différence entre ces deux termes et ensuite nous les verrons en hébreu. Quelle est la différence de sens si j'affirme que Dieu est un ou si j'affirme que Dieu est unique? Qui a une idée? Vous avez déjà appris cela, compris par vous-même, réfléchi à cela. Pour le moment, pour vous, c'est synonyme.
Unique, c'est par rapport à d'autres.
À d'autres. Très bien.
Et unique, c'est en lui-même.
Et j'ai pas dit unique.
Et un, c'est-à-dire en lui-même.
Très bien. Bon, alors explique plus pour les autres. C'est exact, mais explique plus.
C'est-à-dire, à Dieu, pour être un, c'est-à-dire qu'il pourrait comprendre toutes les propriétés, enfin, pour avoir toutes les propriétés.
On ne dit pas les propriétés, les attributs.
Les attributs de Dieu, mais il pourrait y en avoir un autre, qui lui aussi aurait tous les attributs.
Non, il serait confondu, réfléchis. J'ouvre une petite parenthèse de raisonnement logique. Lorsque vous avez deux réalités exactement semblables, il n'y en a qu'une. Pour qu'il y en ait deux, il faut qu'il y ait une différence, quelle qu'elle soit. Pour rappeler qu'une fois on a fait cette analyse, la notion d'égalité, okay, qui peut se rappeler ce qu'on a appris à ce moment-là, on a appris deux mots hébreux qui se ressemblent.
Shavé,
shavé. Quel est le mot qui veut dire égal? Alors là, qui t'abête, là ? J'avais. Qui s'écrit comme ça. Avec un ré à la fin. Ok ? Et le mot de chave, avec un aleph à la fin. Alors, chave veut dire égal, et chave veut dire vin. Comme ça, je ne sais pas si je prononce bien en français, mais A-I-N, vin, vanité. Okay ? L'idée qu'il y a là est très importante. Si deux choses sont égales vraiment, il y en a une de trop. Une qui est vaine. Comprenez les implications que ça peut avoir dans le comportement concret de la vie de tous les jours, et en particulier au niveau du problème moral. Bon, ça c'est un sujet pour lui-même. Okay. Même dans, au niveau des objets, vous allez prendre deux pièces de monnaie, je sais pas moi, d'un franc, enfin d'un shekel. Et le fait de dire que c'est les mêmes, c'est une façon de parler. Bien que toutes les propriétés, les définitions possibles de ces deux pièces de monnaie coïncident, il y a quand même un facteur différentiel. Il y en a une qui est sortie de la machine à fabriquer une seconde avant l'autre. Ça suffit. C'est deux réalités différentes. Bien qu'elles soient apparemment égales. Est-ce que c'est clair ? Retenez bien, du point de vue de la tradition, il n'y a qu'un domaine où l'égalité est légitime. La notion d'égalité est légitime, c'est lequel ? Il n'y a qu'un domaine où une fois 10 égale 10 fois 1, c'est quoi ? La mathématique. C'est-à-dire, le niveau le plus abstrait possible, dès qu'on entre dans le niveau concret de la réalité, cette notion d'égalité n'est plus valable. Vous vous rappelez ce que je dis ? À plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'hommes. Je ne peux pas dire qu'un homme soit égal à un autre homme. Mais toute la philosophie morale qu'il y aurait derrière. C'est clair ? Ça va jusque-là ? Bon, c'est une analyse de parenthèse pour corriger un peu le raisonnement. Et je vous ai, je crois, donné l'exemple suivant que j'avais appris, ça m'a bien frappé. En pharmacie, une fois 10 cachets de Gardénal ou 10 fois un cachet de Gardénal. Le résultat n'est pas du tout le même. C'est clair ? C'est-à-dire, on ne peut pas établir une égalité. Ça va ? C'est pas la peine que vous sachiez qu'est-ce que c'est le Gardénal, mais vous avez compris le problème. Donc, alors, reprends ton raisonnement. Qui avait commencé par la définition de l'unicité. Dire de Dieu qu'il est unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Mais dire qu'il est un, c'est là, c'est plus difficile à définir, c'est là que je veux t'écouter. Dire qu'il est un, ça signifie... Non, ça c'est unique.
Une totalité ?
De quoi ? Je préférais le mot de unité, mais l'unité de quoi ? Ah, vous voyez qu'on découvre ici un problème qui n'est pas clair. Alors d'abord les mots hébreux.
Pour dire un en hébreu, comment on dit ?
Alors, ce sont deux affirmations différentes. Alors, je vais vous définir les deux monothéismes qui sont indiqués par ces deux formules différentes. Je commence par l'unicité. C'est le monothéisme le plus général qu'on trouve dans beaucoup de traditions sémites, en particulier dans l'islam. La formule de l'islam, par exemple, éclaire le mieux ce que c'est qu'un monothéisme de l'unicité. Que s'il y a Dieu, il y en a un seul. C'est clair jusque-là ? Bon. Ce monothéisme-là est homogène au monothéisme hébreu. Mais le monothéisme hébreu commence au-delà. C'est l'affirmation que ce Dieu qui est seul à être Dieu est un en lui-même. Et là, nous sommes au bord de notre problème. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit un ? Ça va jusque-là ? C'est clair ? D'ailleurs, ce qu'il faut découvrir, c'est ceci. C'est que unique et un, c'est pas synonyme. L'affirmation du monothéisme, de l'unicité, c'est contre le polythéisme. Le polythéisme affirme qu'il y a plusieurs dieux. Le monothéisme affirme qu'il y en a un seul. Ça, c'est l'unicité, Yahid. Celui qui est Dieu est seul à être Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Bon. Comment il est arrivé que dans l'histoire de l'humanité, des sociétés, des traditions, des cultures, il est arrivé ce principe du polythéisme ? Ça, on y arrivera tout à l'heure. Mais pour le moment, nous sommes à la définition formelle même du sujet que l'on va étudier. À un deuxième niveau, l'affirmation que ce Dieu unique est un, là commence le monothéisme. C'est-à-dire, bien entendu, on s'appuie sur la première formule. C'est pourquoi vous trouverez, et en particulier Maïmonide l'a très clairement mis en forme dans le Guide des Égarés, que à part le monothéisme d'Israël, le monothéisme de l'islam est authentique au niveau où il se formule, c'est le monothéisme de l'unicité. Ce qui n'est pas le cas, enfin, c'est en controverse par rapport au monothéisme chrétien. Le problème de la Trinité, ça je vous en parlerai un autre jour, du point de vue de la tradition juive. C'est-à-dire, par rapport au monothéisme de l'islam...
La Trinité, ce serait
au niveau de l'Ekhrad ? Nahon. Ce serait au conditionnel. C'est-à-dire l'affirmation du monothéisme musulman, de l'islam en tant que théologie pure et simple, est absolument homogène à la tradition de la Torah, sans problème. Lorsqu'on abordera les grands problèmes des rivalités qui s'amorcent déjà dans les cours que nous avons sur l'histoire des patriarches, je dirais qu'avec l'islam, nous n'aurons pas de problème théologique. Il n'y a pas de problème théologique. Ce n'est pas la même théologie. Mais la théologie de l'islam est compatible avec celle du judaïsme. On a un problème de différence de définition de la morale. Ça, c'est une autre question. Et donc un problème politique, comme vous le savez. Alors qu'avec le christianisme, c'est l'inverse. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cette formule. C'est pratiquement à peu près la même conception de la moralité. Exactement la même, mais c'est homogène. Alors que, du point de vue de la théologie, il y a une cassure absolue. Bon, je vous rappelle la formule, on l'étudiera beaucoup plus en détail. La contestation avec l'islam n'est pas au niveau de la théologie, elle est au niveau de la morale. La contestation avec la chrétienté n'est pas tellement au niveau de la morale, elle est au niveau de la théologie. C'est clair, je veux dire. Bien sûr, il y a un lien entre les deux, l'un influe sur l'autre, mais ça on verra beaucoup plus tard. Et c'est Maïmonide qui a mis ça enfin, je vais vous dire la phrase, pas la peine de la noter. « En Yehud Hashem ke Yehud Ishmaelim ». Ça veut dire « En dehors du monothéisme d'Israël, il n'y a d'autre monothéisme que celui des Ishmaelim », c'est-à-dire les musulmans. Ça va jusque-là? Donc, on verra pourquoi et toutes les implications que cela représente. Alors, ce que je vais dire maintenant concernant le monothéisme de l'unité éclaire énormément de problèmes de la contestation avec la théologie chrétienne, mais ce n'est pas maintenant le moment d'étudier, le moment d'étudier cela. Et c'est bien clair en tout cas au niveau de l'unicité. C'est-à-dire cette formule va s'opposer au polythéisme. Ça va jusque-là ? Non. Alors abordons maintenant la formule de l'affirmation de l'unité. Alors pour aborder ce problème, on va apprendre encore un autre mot. Ce Dieu dont on parle intervient dans le monde dans des modalités différentes. Ces modalités, on les appelle des mitzvot. On va rappeler tous les sens du mot de mida. Mida, une mesure. Mida, une qualité. Alors dans notre sujet, ces mesures, ces qualités, ces modalités, c'est assez frappant. Le mot de modalité peut traduire très exactement le mot de mido. C'est pas la même racine, l'un vient du grec et l'autre de l'autre. Attendez. Sont appelés des attributs. Alors, c'est rien.
Ça signifie à la fois mesure.
Oui, c'est-à-dire le mot mida signifie mesure, qualité. Par exemple, pour parler des qualités morales, on dira mida tova, une bonne qualité, mida raha, une mauvaise qualité, ce qui qualifie. En français, le mot de qualité a fini par prendre le sens dans le bien, comment on dit ça, l'adjectif positif, bien. Mais étymologiquement, même en français, le mot de qualité signifie ce qui définit. Au niveau d'un objet, on parlera de propriété. Okay? Bon. Au niveau de du comportement moral, le vocabulaire en hébreu s'exprime ainsi, mida tova, mida ra. Mais finalement, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est ish midot, c'est on pense premièrement en bien. Un homme plein de qualité, midot. Anche midot, une expression de la Torah. Bon. Alors, ce Dieu dont on parle, ne se fait pas connaître en lui-même, mais entre parenthèses une notion très importante qui reviendra souvent, le Dieu caché, ne se fait pas connaître en lui-même, mais il se dévoile, il se fait connaître par ses midot, c'est-à-dire par la manière dont il est providence du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être providence du monde? La manière dont il gère l'histoire du monde, dont il intervient dans l'histoire du monde, dont il est relié à l'histoire du monde. Ce qu'on avait déjà appris du Dieu dont parle la Bible, c'est qu'il est le créateur, premier point. Et maintenant, on découvre un deuxième niveau. Non seulement il est le créateur, mais il est lié au monde qu'il a créé. C'est-à-dire, sur ce premier point d'analyse, vous pouvez avoir des conceptions du monde. Elles se sont trouvées surtout dans les philosophies anciennes, mais c'est une expérience qui peut être retrouvée dans la littérature moderne, que bien sûr, on ne peut pas s'expliquer l'existence du monde si on ne fait pas appel à l'existence d'un créateur, Ken, mais que ce créateur aurait abandonné le monde qu'il a créé. Vous voyez, c'est une première hérésie, entre guillemets, d'ailleurs, d'admettre le Dieu créateur, mais que finalement, on ne perçoit plus l'évidence de la relation du créateur au monde qu'il a créé. Alors on y renonce, et puis on suppose, vous avez des traditions gnostiques comme cela, comme on les appelle, que Dieu, après avoir créé le monde, s'en est désintéressé, ça n'intéresse pas, il l'a jeté dans l'espace, et puis il n'est pas providence. Providence, ça veut dire relié au monde qu'il a créé. Vous suivez ? Bon. Ah, évidemment, le fait de la révélation prophétique nie cela, repousse cela, bien évidemment. Donc. Et, encore une fois, si vous voulez, pour mieux éclairer cela, d'où vient cette impression qui a mené à ce genre de théorie, c'est qu'on a perdu la capacité de diagnostic de l'intervention de Dieu, du Dieu caché, à travers l'histoire du monde. Il est tellement caché qu'on le perçoit pas. Vous suivez ? Et ça, puisque j'ai signalé cette théorie en passant, j'ai voulu que vous la compreniez un peu mieux. Et donc, le fait historique de l'histoire d'Israël nie cette position. Et on aura un problème. Peut-être vous retiendrez simplement cette formule. Le Dieu caché, et donc il y a le risque qu'on perçoive une absence, puisque la présence est cachée. C'est clair, hein ? Ça vous éclairera sur cette théorie ancienne, qui, surtout chez les Grecs, que Dieu a créé le monde, mais il s'en est désintéressé. Il n'y a pas de midote, c'est-à-dire de médiation, de relation entre Dieu et le monde. Ça va jusque-là ? Alors, avant d'aller plus loin, pour mettre en évidence l'importance de l'affirmation de l'unité, puisque unicité, on a déjà compris, okay, c'est le refus du polythéisme. Maintenant, le vrai problème du monothéisme va commencer au-delà, un niveau auquel l'islam lui-même n'est pas arrivé, et un niveau sur lequel, comme a dit M. l'archiste tout à l'heure avec raison, nous sommes en contestation avec le christianisme. Donc, et avant ça, je vais vous raconter une histoire chassidique sur le Dieu caché. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est une des plus belles histoires du Baal Shem Tov. Bon, vous savez qui est le Baal Shem Tov ? Qui est le Baal Shem Tov ? Plus fort, je t'appelle. Le fondateur du chassidisme polonais. Okay ? Parce qu'avant le chassidisme polonais, plusieurs siècles avant, il y a eu le chassidisme allemand. Ne confondez pas. Le chassidisme polonais est très récent. Quel siècle ?
18e.
Début du 18e. Okay. 1750 et quelques. Alors, on raconte du Baal Shem Tov qu'un Shabbat, il était chez lui en train d'étudier, puis il y avait ses petits-enfants qui jouaient dans sa maison. Et puis, un des petits-enfants est venu pleurer auprès de lui. Alors, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Il m'a dit, ils m'ont fait de la peine, qui les autres petits-enfants qui jouaient, les petits cousins qui jouaient avec lui, ont joué à cache-cache, c'était mon tour de me cacher et personne ne me cherchait. Alors le Baal Shem Tov s'est mis à pleurer. Alors le gosse n'a plus pleuré, il a vu son grand-père pleurer. Il a dit, mais c'est à moi qu'on a fait de la peine, pourquoi toi tu pleures ? Il dit, je pensais à Dieu, c'était son tour de se cacher, personne ne le cherche. Vous voyez quelle est l'idée ? Alors je referme l'histoire. Retenez bien cette notion du Dieu caché. Et le fait qu'il en soit ainsi, ça nous l'avons appris. C'est les conditions du septième jour. Vous vous rappelez ? Alors ce fait même laisse place à cette tentation possible d'une doctrine de ce genre. Bien sûr, on a besoin de l'idée de Dieu pour expliquer l'existence du monde, mais il n'y a pas de midot, d'intervention de Dieu dans le monde, parce qu'elles sont cachées. Vous savez, c'est clair jusque-là ? Donc. Alors, le fait de diagnostiquer ces midotes est une question d'expérience. Finalement, c'est de l'ordre de la connaissance. Je vais vous en énumérer quelques-unes. Pour la tradition, vous étudierez ce problème d'ailleurs sur les textes. Il y a une infinité de midotes, puisque c'est la relation entre l'unité de Dieu et la multiplicité du monde. La relation entre l'unité et la multiplicité... C'est une infinité de midot possibles. Est-ce que c'est clair ? On a résumé cette infinité dans le nombre de 13. Et je vous dirai tout de suite pourquoi. Et il y a là une coïncidence qui est plus qu'une coïncidence. L'énumération des midot se récapitule dans le chiffre de 13, disons des qualités, des médiations, parce que c'est la valeur numérique du mot echad, 1. Okay, vous ferez cette correspondance. Je vous le dis brièvement, c'est pas la peine de mettre au tableau. Le mot de Echad, Aleph, Chet, Dalet. 1 et 8 et 4, ça fait 13. Ça va ? Vous trouverez plus tard une autre correspondance que les tribus d'Israël sont aussi au nombre de 12 qui sont 13. Alors ici, on est aidé par le français. Il y a 13 attributs de l'unité de Dieu et il y a 13 tribus de l'unité d'Israël. Ça va? Ça se correspond. C'est clair? Il y a un très joli midrash dans la Gemara, sur deux fois. Dans la Gemara qui dit que pendant que Israël dit le Kriyat Shema, affirmant l'unité des 13 attributs de Dieu, Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad, Dieu dit un verset qui affirme l'unité des 13 tribus d'Israël. Quel est le verset? Quel est le verset qui affirme l'unité d'Israël? Non, ça c'est l'unité de Dieu. Ah, on l'a vu il y a récemment dans un coup. Umi, ke amecha, ke Israël, goy, echad, baaretz. Vous vous rappelez de ce verset? Vous le chantez le chapitre après-midi, non? Ça vous arrive pas? Le chanter, je ne sais pas. C'est dans Ata Echad du Mincha de Shabbat. Umi, ke amecha, ke Israël, goy, echad, baaretz. Mais je me souviens qu'on a vu ce verset. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas?
Non.
Ah, c'est avec la Kitabet. Non? Ça doit être la Kitabet. Bon. Alors, je referme cette parenthèse. Alors, le problème que nous allons rencontrer maintenant est un problème difficile, c'est le suivant. On est habitué, dans la tradition juive, ou à travers la tradition juive, ou à travers la tradition biblique, à admettre comme une donnée d'évidence rationnelle l'unité de Dieu. Que ce Dieu qui est unique a existé, on s'est déjà débarrassé du polythéisme, est un en lui-même. C'est clair jusque-là? Est-ce que ça va? Vous suivez? Alors, ce que je voudrais, c'est vous faire découvrir que ce n'est pas du tout une évidence de la raison. D'où l'importance du rite qui consiste à affirmer cette unité en dépit des apparences et de l'expérience et de la raison. Pourquoi? Parce que les modalités par lesquelles ce Dieu un est relié au monde sont différentes et contradictoires. Et je vais vous résumer les 13 qui résument une infinité de modalités en deux principales que je vais choisir pour cette année comme illustration de chacune de toutes ces analyses-là pour que vous ayez un même fil conducteur. La modalité de Chesed et la modalité de Din. Alors, je vais vous montrer très brièvement, mais on va le reprendre dans l'histoire des patriarches, qu'il y a là deux absolus, tous les deux authentiques, tous les deux nécessaires, mais non seulement contradictoires, exclusifs l'un de l'autre. Alors, je traduis. La modalité de Chesed, c'est la modalité de la grâce, la charité, la bonté, tout ce qui va dans cet ordre-là. La prodigalité. Par exemple, la lumière du soleil. Si j'expérimente ce qu'est la lumière du soleil, il y a là le don gratuit, en prodigalité, de ce qui fait que la vie est la vie. Ça vient, c'est une expression de chesed. C'est clair? Bon. Pas lu la symbolique, entre guillemets, de la tradition. Je vous donne là des exemples un peu imaginaires, si vous voulez. C'est l'eau qui représente chesed. Si on sait qu'est-ce que c'est boire un verre d'eau, alors on sait qu'est-ce que c'est chesed. Bon, alors voilà une première modalité, diagnostiquer une mida, qui est la mida de Chesed. Pardon? En particulier, oui. Rappelle-moi ça tout à l'heure à la fin du cours, j'expliquerai plus particulièrement. Donc, c'est-à-dire que l'expérience humaine peut diagnostiquer la mida de Chesed, la modalité de Chesed. Nous verrons que dans l'histoire des patriarches, le tzaddik de la mida de Chesed, qui est Abraham, se définit comme étant celui qui, pour la première fois, a caractérisé, diagnostiqué que Dieu est premièrement chesed. Et la piété d'Abraham, c'est tout entier la piété du chassid, de celui qui connaît Dieu dans la mida de chesed.
On dit aussi d'Abraham
qui
propageait la Torah comme de l'eau.
Oui, ça se relie. C'est-à-dire la Torah est comparée à l'eau, d'ailleurs. Bien. Je prends maintenant une deuxième mida, la mida de Din, la mida de la justice, de la rigueur. Et là aussi, on peut diagnostiquer, caractériser que le monde créé est régi par la modalité de la rigueur. L'expérience la plus évidente pour une conscience contemporaine, c'est les lois de la nature, qui sont impitoyables. La symbolique de la midatadine, c'est le feu. Bon, l'eau et le feu. Alors, l'affirmation de l'unité de Dieu, ça consisterait à dire à la limite que l'eau, c'est le feu, que le feu, c'est l'eau. C'est contradictoire. Est-ce que c'est clair? Et je vais essayer de faire ce parcours de la conquête de l'évidence de l'unité de Dieu, l'unité, je dis bien, l'unicité, on a laissé ça de côté pour le moment, et qui n'est pas quelque chose de naturel, qui n'est pas quelque chose de donné dans l'expérience, qui est au-delà de l'expérience et de la raison. Et tout de suite, la formule, c'est que l'affirmation de l'unité de Dieu est un objet de foi. Là, vous allez prendre une citation du Zohar à ce propos qui dit « Savoir que Dieu est bon, c'est de la connaissance. Savoir qu'il est fort, c'est de la connaissance. Savoir qu'il est juste, c'est de la connaissance. » Etc. Les 13 midot. Savoir que tout cela est un, c'est de la foi. Okay. Pourquoi? Parce que pour la raison, c'est contradictoire. Et je vais essayer de vous l'indiquer de façon plus précise. Lorsque je suis occupé à un comportement de charité, dans ce comportement même, je nie l'absolu de justice. C'est clair? Et lorsque je suis occupé à un comportement de justice, je nie le comportement de charité. Ces deux comportements sont tous les deux des valeurs absolues, authentiques, vraies, mais elles sont contradictoires. Et non seulement elles sont contradictoires, elles sont exclusives. Ce qui fait que la conscience humaine se trouve devant une perplexité fondamentale concernant le problème de l'unité de Dieu. L'homme, par ses propres forces, par son propre génie, peut avoir l'hypothèse qu'au-delà des midot, toutes vraies mais contradictoires, il y a une unité. Mais ça restera une hypothèse tant que ce n'est pas révélé, confirmé, je veux dire, par une révélation. Ça va jusque-là? Ça restera une hypothèse. Et une hypothèse qui apparaît comme invraisemblable. Les Grecs, parlant du monothéisme hébreu, juif, judéen à l'époque, disaient c'est une folie. Pour la raison, affirmer l'unité de l'absolu, alors que nous n'avons connaissance de l'absolu qu'à travers des absolus différents et contradictoires, vous suivez? C'est une folie, folie pour la raison. Alors je voudrais bien vous habituer à cette découverte-là. Nous étions habitués par familiarité à croire que ça va de soi, que Dieu est unique, et que s'il est unique, il est un. Ça ne va pas de soi pour la raison. Je reviens un petit peu en arrière au polythéisme. Il faut que vous sachiez que, du point de vue de l'être de nature, la religion naturelle, c'est le polythéisme. À la limite, le dualisme. Le monothéisme ne peut être atteint, en certitude, que parce qu'on a eu expérience par révélation, que malgré les apparences, il en est ainsi. Que celui qui est l'absolu du bien est aussi l'absolu du mal. Que celui qui est l'absolu du jour est aussi l'absolu de la nuit. Que celui qui est l'absolu de bonté est aussi l'absolu de justice. Ça dépasse la raison, ça dépasse l'expérience. C'est clair? Alors c'est ce que vous appelez une donnée de foi. Cette foi a ses propres raisons. Vous comprenez? Il y a à ses propres preuves. Mais elles ne sont pas du tout au niveau de la raison, à proprement parler, je veux dire. De la raison humaine livrée à ses propres forces. La raison humaine, quelque sophistiquée qu'elle soit, livrée à ses propres forces, ne peut arriver par elle-même, par l'exercice des lois de la raison et par l'expérience de la réalité du monde, qu'à l'hypothèse du polythéisme, à la limite du dualisme. L'hypothèse du monothéisme resterait une hypothèse non arbitraire, non confirmée, s'il n'y avait pas une révélation qui la confirme.
Pourtant, bientôt est arrivé un certain... Déisme.
Non, déisme. C'est un peu différent. Et c'est un déisme de l'unicité, d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas que Platon, c'est tardif, postérieur. C'est après la révélation biblique, dans tous les cas. En tout cas, il y a un autre philosophe dont le nom ressemble un peu, Plotin, qui a bien mis en évidence l'hébraïsme de Platon dans ce problème. Et... Je reviens donc à notre problème. Et je veux dire, essayons de schématiser cela. Un être de nature, c'est-à-dire qui ne fonctionne, fût-ce un degré très élaboré, très sophistiqué, le philosophe le plus philosophe, qu'avec sa propre expérience du monde et de sa raison, ne peut arriver à l'hypothèse de l'unité que sous forme d'hypothèse. Rien dans le monde ne le lui confirme. Dans le jour, il est dans le jour. Dès qu'il passe dans la nuit, il est dans la nuit. Et c'est clair ce que je dis. L'homme civilisé n'a peut-être plus la connaissance, le diagnostic de ces contrastes absolus. Comme je vous ai dit une fois, on ne sait plus qu'est-ce que c'est le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, on a l'électricité. Mais le paysan le sait, cela. Que le jour, c'est le jour, et la nuit, c'est la nuit. C'est purement abstrait de dire que, par exemple, le mal, c'est une des formes du bien, ou que le bien, c'est une des formes du mal. Le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Ce sont des contraires. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et pourtant, on s'amène tranquillement au nom des Hébreux, et on nous affirme, c'est un. Donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est de ne pas faire cette erreur. Cette vérité que Dieu est un n'est pas une vérité rationnelle. Elle est au-delà de la raison. C'est pas qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est pas par la raison qu'on peut comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est arbitraire, mais c'est pas de l'évidence logique. L'expérience renvoie au polythéisme. La révélation dévoile que le polythéisme est faux, que malgré les apparences, Dieu est un. Mais c'est une conquête de la foi. Ça va jusque-là? T'es bien clair? Bon. Alors, retenez bien cette analyse. Il y a une affirmation là qui... Okay.
Je pourrais revenir un petit peu de ce que vous me
dites. À partir de quel moment c'était obscur? Je veux dire, voilà. Lorsque nous réfléchissons sur les midot, par lesquels ce Dieu dont la Bible parle se révèle dans le monde, okay, et dans notre expérience de la vie quotidienne. Et ça peut être même, pour illustrer cela, à une expérience purement poétique. Prenons par exemple l'univers de la poésie romantique, okay, qui a exploré le monde de la nuit, le monde de l'obscurité, le monde de... Bon, l'autre côté du monde. Et puis, qui parle de la lumière d'autre part. Ne serait-ce qu'au niveau de ces images poétiques. Alors il est bien évident que nous sommes en présence de deux absolus radicalement différents. C'est clair ? Affirmer que l'un c'est l'autre, c'est au-delà de la raison. C'est la première chose qu'il faut découvrir. J'ouvre une petite parenthèse pédagogique. Quand un adulte dit à un enfant que Dieu est un, comme si ça va de soi, que ça peut être compris par la raison livrée à ses propres forces, non éclairée par une révélation, comme si c'était une donnée rationnelle, okay ? Eh bien, il y a là un danger au niveau de la pédagogie qui est considérable. Parce que l'enfant va grandir. Il va s'apercevoir qu'on lui a raconté des histoires. Est-ce que c'est clair? Tenez bien cette règle. Si on n'est pas convaincu soi-même, ça ne peut pas convaincre quelqu'un d'autre. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon. Alors, il faut se débarrasser de cette fausse pédagogie qui consiste à croire que l'objet de foi, c'est rationnel. L'objet de foi, c'est pas rationnel. Et l'expérience de la vie... chaque fois nous renvoie, nous confronte à ces situations qui nous obligent, vous comprenez pourquoi le rite, à répéter sans arrêt, Dieu est un, parce que c'est pas évident. C'est clair? Vous avez une phrase dans Corneille, je crois, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous savez ça? Alors on a comparé les mitzvot à des armes avec lesquelles on se défend contre un ennemi. Mais si on comprend pas quel est l'ennemi, on voit pas en quoi c'est une arme, alors on dit, ça sert à rien, ok? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas pour rien que la Torah va instituer que, à chaque moment de passage d'une expérience à l'autre qui renverrait à l'idée de deux absolus, il faut dire Kriyat Shema. C'est clair? Parce que il suffit pas d'avoir la connaissance abstraite, une idée que Dieu est. Confrontée avec la réalité concrète de l'existence, cette idée vole en éclats. C'est clair? Il faut donc l'acquérir, la reconquérir, l'affirmer, la construire, cette unité dans notre monde à nous. Parce qu'elle n'est pas de notre monde à nous. Ça va jusque-là? Bon, c'est plus clair? Donc. Mais j'insiste encore sur cette échappée pédagogique que je vous ferai souvent. Et énormément de gens, comme on dit en français, ont perdu la foi, parce que quand ils étaient au catéchisme, on leur racontait des histoires. Quand ils ont grandi, ils sont aperçus qu'on leur racontait des histoires de catéchisme. Tout simplement. C'est clair? Ça va jusque-là? Alors, méfiez-vous de ça. Bon, il y a ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Et charbonnier, ça ne veut pas dire forcément primitif, hein. Il y a des grands industriels qui sont des charbonniers. Et ça veut dire qu'on a reçu ce qu'on a reçu comme donné de foi, et puis on accepte sans chercher à comprendre. C'est un niveau de la foi. Mais dès qu'on s'interroge sur le contenu de la foi, de la croyance en question, Alors, il faut réfléchir sur des données réelles, et pas sur des données, des pseudo-données, pas sur des données frelatées. Vous avez compris le problème ? Alors, je vous rappelle donc cette citation du Zohar. Les attributs, c'est de la connaissance. J'ai telle ou telle expérience qui me fait savoir que ce Dieu dont je parle est bon. Un point. Mais j'ai d'autres expériences qui me font savoir qu'il est juste impitoyable. Bon, ne serait-ce que ces deux exemples. Comment se fait-il que l'un, ça soit l'autre ? Ça va jusque-là ? C'est clair ? Vous avez bien compris ? Bon, on va faire un petit voyage dans l'autre cours. Nous allons commencer à explorer l'identité des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Vous vous rappelez de cela ? Donc, alors nous allons voir le Dieu d'Abraham, c'est Abraham connaissant Dieu dans la Midat HaChesed. Et puis le Dieu d'Isaac, c'est Isaac connaissant Dieu dans la Midat HaDin. Bon, Israël n'est pas encore apparu là, la Torah n'est pas encore apparue là. Si le seul absolu était l'absolu de Chesed, on n'a pas besoin d'une révélation. On peut se constituer un code de la vertu de Chesed. Okay. Si l'absolu central était l'attribut de Din, on n'a pas besoin de révélation. On peut se constituer un code de l'attribut de Din sans qu'on ait besoin de révélation. Je veux dire là, le génie humain, par ses propres forces, peut fonder une religion basée sur la charité. Pas besoin de révélation. Okay. Est-ce que c'est clair ? Et de même pour une religion basée uniquement sur la justice. Donc. Mais si il faut baser une religion sur le principe de l'unité des deux, ça dépasse les forces humaines. C'est clair ? C'est pourquoi il faut une révélation. Alors c'est ce qu'on appelle Torah Min HaShamayim, mais je vais vous l'expliquer plus en détail. La Torah révélée. Est-ce que vous avez suivi ce moment d'analyse ? Okay. Si je me choisis une parmi les valeurs, je vais dire que c'est ça l'idéal absolu, et je vais construire un code du comportement autour de cette une des valeurs choisies. J'ai une religion humaine possible, quelle que soit la valeur. Okay. C'est clair jusque-là. Mais s'il s'agit du projet de l'unité des valeurs, l'homme ne peut pas, lui, formuler le code du comportement concernant l'unité des valeurs. Et on est en plein dans le sujet de création. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà de l'entendement humain. Et parce que le comportement de charité nie le comportement de justice. Le comportement de justice nie le comportement de charité. Comment je vais connaître le comportement qui satisfait à la fois la justice et la charité ? Il faut que cela soit révélé. Est-ce que c'est clair ? Bon, c'est pourquoi la Torah n'est pas révélée à Abraham, la Torah n'est pas révélée à Isaac, elle est révélée à Jacob, qui est le tzaddik de l'unité des deux valeurs. Quel est le verset ? Quel est le verset qui nous dit que la Torah est révélée à Jacob ? C'est le premier verset qu'on fait apprendre aux enfants quand ils commencent à parler. Vous n'avez pas encore commencé à parler. Torah, Siva, Lanou, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. Et pourquoi pas Abraham, pourquoi pas Yitzhak ? Vous avez compris pourquoi ? Okay. C'est-à-dire la Torah que Moïse nous a ordonnée est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Alors à travers Jacob, c'est aussi Isaac et Abraham. Mais pas a priori, a posteriori. Vous suivez ? Abraham peut fonder une religion de la charité. Il n'est pas encore Israël. Isaac peut fonder une religion de la rigueur. Il n'est pas encore Israël. C'est Jacob qui va fonder la religion de l'unité. Et a posteriori de Jacob, Isaac et Abraham sont d'Israël. Vous suivez ce schéma ? Okay. C'est clair ? Alors, vous verrez, je vous donnerai cette référence d'ailleurs à chercher, vous me donnerez un... Rappelez-moi, je vous donne cette référence dans Rashi. Le mot de Shabbat, puisqu'on est dans cette symbolique-là, le mot de Shabbat, qui signifie les cieux, est un duel. Vous savez cela, Aïn, c'est le duel. In, c'est le pluriel. Aïn, c'est le duel. Et c'est un duel qui n'a pas de singulier. On ne dit pas le ciel en hébreu. On dit toujours Shamaïm au duel. Je vais vous donner une explication un peu parascientifique qui vient d'un commentateur de Sforn, d'un grand commentateur du judaïsme italien, il y a 3 siècles, qui a dit on peut comprendre ce mot de Shamaïm, c'est pas l'étymologie grammaticale, mais on peut comprendre le mot de Shamaïm comme le duel de Sham. Qu'est-ce que ça veut dire Sham en hébreu ? Là, l'endroit. Quel Sham ? quel que soit l'endroit de l'espace que l'on désigne, il y a toujours dans toutes les dimensions deux dimensions égales. Vous voyez ? Si je vous dis Cham est là, dans un point de l'espace, alors vous avez dans toutes les dimensions l'idée de Chamaïm qui apparaît, c'est-à-dire deux vecteurs égaux à partir du centre, okay ? Et apparaît la notion d'un espace sphérique. Vous savez que dans la mathématique moderne, vous savez cela ? On a intégré la notion d'espace sphérique. Okay. Donc je passe là et je reviens au village. Alors, ce mot de Shamaïm n'a pas de singulier. Donnez-moi un mot qui ressemble et qui aussi n'a pas de singulier en hébreu.
Maïm.
Alors, dans les langues sémitiques, le mot de Maïm ou le mot de Shamaïm a un singulier. Par exemple, en arabe, le singulier de Maïm, c'est Ma. Et le singulier de Shamaïm, en arabe, c'est, comment on dit le ciel en arabe ? J'ai entendu. Sam. Bon, je reviens en tout cas à l'hébreu. Et le Midrash a expliqué le mot de Shamaïm par deux autres mots. C'est une explication du Midrash, hein, ce n'est pas l'étymologie. L'étymologie est très probablement celle de Sforno, c'est-à-dire le duel de Cham. Vous comprenez l'idée ? Là-bas, ça fait apparaître l'espace sphérique. Là-bas est toujours au duel dans toutes les dimensions. Ça va ? C'est clair l'idée, okay ? Je reviens au Midrash, et vous le verrez d'ailleurs dans vos livres de Bréchit, je vais vous donner la référence. Le mot de Esh. Le feu et l'eau. Esh ou Maïm, contracté, ça fait Shamaïm. Une étymologie du Midrash. Qu'est-ce que le Midrash affirme par là ? Que lorsque nous disons Shamaïm, ça veut dire l'unité des valeurs contraires. Dans notre monde à nous, c'est incompatible, l'eau et le feu. Le feu est un lot, et l'eau est un feu. Le feu est le vapeur, l'eau, et l'eau est un feu. Mais dans le ciel, à un autre niveau, il y a un niveau de réalité où Maïm et Esh sont unifiés, ça s'appelle le ciel. Est-ce que vous avez compris l'idée ? Alors, dire que Torah est Min HaShamaïm.